Bonne émission.
La science CQFD, Natacha Triou.
Pour anticiper les dangers de demain, l'armée française a convoqué des créateurs de science-fiction, soit la naissance d'un collectif unique, la Red Team Défense. Comment la SF peut-elle servir la défense militaire ? En 2019, l'Agence de l'innovation de défense s'est posé une question. Comment mieux anticiper les menaces du futur ? En faisant appel aux professionnels de l'anticipation, bien sûr. Depuis, auteurs, illustrateurs et scénaristes de SF travaillent étroitement avec des scientifiques et des militaires. L'objectif est d'imaginer les risques technologiques, environnementaux et sociétaux à l'horizon de 2030-2060. On vous dévoile les nouveaux scénarios de la Red Team Défense, saison 2. Red Team, la SF s'en va en guerre. Romain Lucazo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur et membre de la Red Team Défense. Avec nous également Nicolas Mainviel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de la Black Team et professeur à l'Audencia Business School. Et avec nous également en duplex de Nice, Nadia Maizi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de la Purple Team, professeur à Mines Paris, PSL et co-auteur du 6e rapport du GIEC. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture et merci à vous pour votre écoute. On vous propose également de retrouver toutes nos sources et tous les articles qui ont nourri cette discussion avec notre live tweet. C'est sur notre fil @sciencesqfd et c'est tout de suite. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de l'originalité de ce collectif, du rôle des imaginaires dans la pensée stratégique et de comment la science-fiction, la recherche scientifique pluridisciplinaire et les arts se confrontent au savoir militaire. Alors, Ces guerres qui nous attendent, volume 2, vient de paraître aux éditions Équateur. C'est un an après la parution du premier opus. Ce premier volume, paru le 5 janvier 2022, s'est vendu à 27 000 exemplaires, 4 impressions. Romain Lucazo, vous expliquez pourquoi un tel succès public ?
Alors oui, il y a eu un phénomène conjoncturel d'intérêt pour la guerre, assez clairement. Il y a eu aussi le fait que ces scénarios proposaient un certain nombre d'éclairages intéressants sur ce que pouvait être l'avenir. Alors nous, on espère l'avenir lointain et parfois l'actualité est plus rapide et c'est de l'avenir proche. Et de fait, moi, les lecteurs que j'ai pu rencontrer, parce qu'on les croise quand même de temps en temps, nos lecteurs, c'est pas que des abstractions, c'est effectivement beaucoup des gens qui s'intéressent aux questions géopolitiques, géostratégiques, militaires, technologiques, et pas forcément d'ailleurs des lecteurs de science-fiction stricto sensu.
Nadia Maizi.
Alors je pense que, outre la guerre, il y a quand même la conjonction de, pour certains, la prise de conscience de la question climatique et les incertitudes que cela propulse devant nous et en termes d'horizon. Donc c'est certainement également l'idée que ces scénarios qui parlent de guerre font écho à des inquiétudes qui deviennent de plus en plus concrètes.
Et ces inquiétudes climatiques, nous verrons qu'elles sont au cœur de ces deux saisons, la saison 1, la saison 2. Par rapport au succès du premier ouvrage, Nicolas Mainviel, vous expliquez vous aussi pourquoi ce premier tome a trouvé son public ?
Je pense qu'il y a aussi, pour rebondir sur mes deux camarades, il y a aussi un sujet de relation au temps qui évolue actuellement. On se rend compte que les fins du monde sont réellement possibles. On a connu quelques décennies où tout allait à peu près bien. Et là, on a un peu une obligation de penser le long terme, ce qui est assez nouveau dans le monde politique. C'est pas le cas pour les militaires, qui font ça depuis toujours. Et puis peut-être un deuxième élément d'explication, c'est qu'on a tout fait pour que ça marche aussi. Donc on les a rédigés en fonction et on a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Je vais essayer de rebondir, mais on n'a pas écrit ça comme un rapport standard.
C'est une vraie particularité de ces travaux, et c'est une particularité de ces travaux par rapport à tout ce qui peut se faire à l'international. Ils sont présentés non pas sous la forme de rapports, comme peut l'être un rapport parlementaire ou un livre blanc de la défense, mais sous une forme narrative. Et c'est vrai que ça change des choses. C'est pas simplement que c'est plus digeste ou lisible ou plus sympathique, c'est aussi qu'il y a une dimension un peu d'expérience. L'expérience du lecteur, c'est l'expérience existentielle, c'est l'expérience immersive. Et ça, je pense que ça a aussi plu, parce que c'est une manière de toucher du doigt des sujets qui sont souvent assez abstraits.
Avant de parler de futur et de prospection, petit retour en arrière, comment s'est formée la Red Team Défense ? Nicolas Mainviel, est-ce que vous pouvez nous raconter la naissance de ce groupe assez unique en son genre ?
Alors c'est une initiative de l'Agence Innovation Défense, vous en avez parlé rapidement, qui est une entité au sein de la DGA, qui est elle-même en charge notamment des programmes d'armement pour le ministère des Armées. Et à l'époque, son directeur, Emmanuel Kiva, qui accessoirement est un fan de science-fiction à titre personnel, s'était dit qu'on pouvait capitaliser sur les notions de force adverse. Donc une force adverse, dans le jargon militaire, c'est une red team en anglais. Et donc c'est quelqu'un qui joue le méchant et qui va venir percuter des partis pris, des convictions ou des pratiques. Et là, l'idée, la nouveauté, la plus connue, était créée par les forces de défense israéliennes après la guerre de Yom Kippour, après la surprise de la guerre en l'occurrence. Ils ont créé des forces qui avaient vocation à analyser les convictions et les a priori. Et là, l'idée était de se dire, est-ce que finalement la SF peut éclairer différemment la programmation actuelle, les doctrines actuelles et les visions, je ne vais pas dire conventionnelles, mais en tout cas les visions préexistantes du ministère des Armées. D'où le recours à des auteurs de SF.
Romain Lucaso.
C'est effectivement un exercice différent de faire de la prospective, moi j'en fais par ailleurs, et d'avoir ce type d'approche. C'est-à-dire quand vous faites de la prospective, vous essayez d'analyser des signaux faibles, des éléments de tendance, des paramètres économiques, technologiques, pour essayer d'éclairer l'avenir. C'est un exercice toujours difficile d'éclairer l'avenir. Et c'est compliqué pour une organisation, n'importe laquelle, de ne pas prédire un avenir ou prévoir un avenir qui en fait la continuité du présent au fil de l'eau. Et ce qu'on constate, c'est que l'histoire militaire notamment, mais l'histoire globalement, est remplie de surprises. C'est ce qui fait le charme de l'existence, mais c'est ce qui fait aussi la difficulté pour les grandes organisations, militaires ou autres. C'est que vous avez beaucoup de signes noirs potentiels, vous avez beaucoup de choses qui pourraient arriver et qui seraient catastrophiques, mais de temps en temps, il y en a une qui arrive. Et donc, c'est compliqué. Et donc, nous, on a une approche, et la Red Team a été conçue pour ça, où on va pas faire de la prospective, en fait. On n'essaye pas de dire ce qui va se passer. C'est-à-dire, ces scénarios, ils ne prédisent pas le futur. Ils sont là pour se dire ce qui pourrait arriver en étant toujours dans le vraisemblable. Il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas d'invasion de zombies. On est dans un cadre rationnel. C'est un cadre globalement cohérent avec la science, mais où on va aller chercher des hypothèses de conflictualité, des adversaires, des types d'adversaires qui ne sortiraient pas de la planification et de la prospective classique. Et donc le but, c'est pour ça qu'on est la Red Team, qu'on joue les méchants d'une certaine manière, c'est de créer la surprise stratégique. Si vous y réfléchissez, l'histoire militaire, elle est remplie de surprises stratégiques. Quand Alexandre le Grand va vaincre l'Empire Perse, les lances des soldats grecs et macédoniens ont quelques mètres de plus que celles de leurs adversaires, c'est une surprise stratégique, puis l'Empire Perse s'effondre. Et personne ne se serait dit, 15 jours avant, l'Empire Perse va s'effondrer en quelques semaines. Bon, mais voilà, donc ça remonte à un certain temps, ce sujet-là. Mais imaginez des lances un peu plus longues, c'est vraiment un exercice qui n'est pas de la planification. C'est un exercice de rupture par rapport aux façons dont on peut, de manière processée, traditionnelle, imaginer l'avenir.
Votre regard, vous aussi, Nadia Maizy, sur la naissance de la Red Team.
Alors, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que il y a trois termes qui ont été employés. Prédiction, prospective, planification. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec l'usage du terme de prospective, parce que je pense que justement, l'idée de la Red Team, c'est vraiment de faire de la vraie prospective, qui se distingue de l'idée de pouvoir prédire l'avenir, ou alors planifier des stratégies qu'on chercherait à mettre en œuvre. Et la prospective, quand on est vraiment ouvert, en fait, à prendre le risque d'entendre des résultats émanant d'exercices de prospective, ça veut dire qu'on est ouvert à être finalement choqué, malmené par rapport à ses propres convictions. Et je trouve que c'est très courageux de la part du ministère des Armées, et c'est peut-être le propre, en fait, de ce domaine-là, militaire, que d'avoir pris ce risque, de se voir finalement ouvrir les yeux avec des éléments qui ne seraient peut-être pas pris en compte dans un exercice similaire dans lequel il n'y aurait que des spécialistes de l'armée ou des combats, de la guerre, et d'introduire la vision de néophytes, entre guillemets, qui seraient des gens plutôt de la science-fiction, plutôt de la recherche scientifique, pour voir ce que eux aussi ont à raconter. Donc je pense que c'est un enseignement qui pourrait être tiré de manière extrêmement pertinente pour nos politiques et le gouvernement dans un esprit d'ouverture à ce qui pourrait bien nous arriver en termes de futur et que l'on n'est pas tout à fait en train d'envisager aujourd'hui.
Oui, ce que vous dites, c'est que l'armée a accepté de prendre le risque d'être bousculée. Nicolas Mainvielle, vous vouliez réagir.
Il y a deux éléments peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Nadia et ce que vient de dire Romain. Le premier, c'est que souvent, quand on fait de la prospective, on se positionne à l'instant T, en 2023, et on regarde loin devant. Nous, de manière assez paradoxale, on fait quasiment l'inverse. C'est-à-dire qu'on va se positionner dans un futur qui est volontairement dystopique pour les forces armées. Et ça, c'est notre rôle. Il faut vraiment que la France perde et soit mise à mal. Ce qui est quand même une vision un peu extrême qu'on nous a par ailleurs reproché en disant « Mais pourquoi vous écrivez pas des utopies ou vous racontez pas des histoires beaucoup plus douces ?» À partir de là, on revient à aujourd'hui, on trace des trajectoires pour s'y préparer. Et peut-être le deuxième élément autour de ça, c'est que quand on veut utiliser les scientifiques, dont fait partie Nadia, on parlera peut-être après de l'organisation Purple et Black, etc. Nous, on cherche pas à travailler sur du probable. Et ça, c'est un point qui est important, en fait. La notion de probabilité ou de prédictabilité n'est pas du tout la nôtre. On cherche à travailler sur du plausible. Et c'est pas du tout la même chose. Je sais pas s'il est probable qu'il y ait des aliens. Par contre, je sais qu'il est plausible que des ennemis de la France développent des technologies d'hypervélocité. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est cette asymétrie technologique et non pas de jouer une probabilité extrême avec des aliens. Peut-être deux éléments juste.
Nicolas et Romain Lucasou.
Ouais, alors là-dessus, je pense que c'est vraiment important. Les scénarios qu'on développe ne sont pas de la prévision du futur. C'est pas mon rôle. Moi, en tant qu'auteur de science-fiction, c'est pas mon rôle. Et je suis pas un scientifique. Et donc, je ne cherche pas, vous voyez, comme pourrait écrire un Jacques Attali, à dire voilà ce qui va se passer à l'avenir. Enfin, Jacques Attali, Paco Rabanne, enfin, c'est maître du futur. C'est pas du tout ça qu'on fait en science-fiction. Et c'est pas du tout ce que je fais en tant qu'auteur de science-fiction. Ce que je fais en tant qu'auteur de science-fiction et ce que j'essaye de faire pour la Red Team, c'est que je regarde une situation qui est une situation rationnelle. Hein, c'est pas voilà, il y a des auteurs de fantasy qui s'occupent de magie. Moi, je m'occupe pas de magie. Et puis, je vais essayer de changer un paramètre de ce réel et je vais en tirer toutes les implications logiques. Et ce paramètre, c'est souvent quelque chose qui est un impensé de mon lecteur. Je vais vous donner un exemple très simple. Souvent, dans les romans de science-fiction, on imagine des situations où on peut voyager à la vitesse de la lumière ou instantanément. Voilà, c'est absolument impossible dans notre cadre et dans notre référentiel. Et non seulement c'est impossible, mais on a tous intégré depuis notre naissance que se déplacer prenait du temps. Si je change ce paramètre-là un peu fondamental, alors il y a toutes sortes d'implications. Ça change l'économie, ça change les modes de vie, ça change la société, ça peut changer l'art de la guerre. En l'espèce, ce qui nous intéresse, c'est l'art de la guerre. Et donc, du coup, je vais interroger la manière dont fonctionne le réel. Et là, ce qu'on fait, alors on change pas la vitesse de déplacement de la lumière, mais on joue un certain nombre de paramètres fondamentaux. Certains sont techniques, d'autres sont sociologiques, d'autres sont anthropologiques, d'autres sont géopolitiques, et ça nous permet d'interroger d'une certaine manière la façon dont les armées sont préparées à l'avenir. Et donc du coup, il s'agit pas de chercher le scénario le plus plausible pour prédire l'avenir. Moi, je saurais pas dire lequel il y a des experts pour ça. Il s'agit de confronter nos interlocuteurs du ministère des Armées à des choses pour lesquelles on se dit que ça va être compliqué pour eux. Et en retour, l'avantage ou l'intérêt que eux y trouvent, c'est étant confrontés à des choses comme ça qui ne sortiraient pas de leur planification habituelle, ils se reposent la question de leur modèle d'organisation, de leur choix technologique, de leur manière de se préparer à l'avenir. Et quand bien même ça n'arrivera pas, cette menace-là, si vous avez envisagé plein de scénarios catastrophes, et vous vous dites comment je peux survivre à un scénario catastrophe, vous êtes, j'aime pas trop le mot, mais j'en ai pas d'autre, vous êtes plus résistant ou plus résilient. Voilà.
Alors pour bien comprendre comment la Red Team s'y prend pour interroger le réel, je voudrais bien qu'on détaille ensemble, Nicolas Mainvielle, comment ça fonctionne, parce qu'il y a ces codes couleurs, la Red Team, la Blue Team, la Purple Team, la Black Team, la White Team. Tout d'abord, d'où vient ce nom Red Team?
La notion de red teaming, elle est souvent peu comprise. Si je reviens un peu en... Il y a un petit moment déjà. Il y a une pratique qui est très très établie dans le cas des militaires, c'est le wargaming. On fait des jeux de guerre, on fait des jeux de plateau. À l'époque où les Prusses le faisaient, ils avaient des uniformes bleus, et donc quand ils mettaient les tables à hauteur d'yeu pour regarder où est-ce que leur canon tirait, il fallait clairement définir qui était l'ennemi, et donc on le peignait en rouge. Donc cette couleur rouge vient là, et le terme de forad en français, force adverse, ou opfor en anglais est arrivé là. Et donc on a cette notion d'adversité simulée qui se traduit par la notion de red team. On nous a aussi reproché de ne pas avoir adopté un nom français. Je suis pas sûr que force d'opposition, enfin, non, c'est pas très, Romain fait la boue. Donc on a appliqué quelque chose qui est totalement intégré dans toutes les armées. La seule différence, c'est que là, on va faire du scénario plutôt qu'être opérationnel, ou être purement analytique. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, l'élément le plus important peut-être, c'est que dans la red team en tant que telle, on communique de manière assez massive sur la notion de red team, mais dans la red team, il n'y a que les auteurs, il n'y a que les designers, moi j'en fais pas partie, Nadia non plus. Et donc pour équiper, outiller ces auteurs-là, on a besoin d'une black team dont le métier c'est d'animer et de structurer une démarche. Je laisserai Romain en parler de sa perception.
C'est votre team.
C'est ma team, voilà. On a besoin de personnes comme Nadia qui sont des expertes, alors pour le coup de très haut vol, puisque c'est l'université Paris Sciences et Lettres qui est tributaire du marché et qui nous donne accès à tous ces chercheurs. Et donc là, on parle de la Purple. Le rôle de la Purple, je laisserai aussi Romain rebondir parce que ça, vu de son côté, là, en tant qu'auteur, comment il vit ça. L'objectif de la Purple, c'est de faire en sorte qu'on ait dans le contenu plausible. C'est-à-dire que chaque fois qu'on jette une idée sur la téléportation, quelqu'un va nous dire non, c'est pas possible. Pour autant, ce qui s'en rapproche le plus serait. Et donc là, on redescend dans ce que nous, on appelle la suspension de l'incrédulité. Il faut que les gens croient à ce qu'on raconte. Et la dernière équipe, qui est absolument clé, c'est ceux pour qui on travaille, c'est la Blue Team. Et donc là, on a des représentants de l'état-major, de la DGRIS, les relations internationales et stratégiques, et de la DGA. Donc c'est pour eux qu'on travaille, littéralement. On va pas rentrer dans le détail de la méthodologie, mais on a beaucoup de points de contact avec eux, on travaille main dans la main. Et c'est eux qui nous disent, ça me sert à quelque chose ou pas. Et on a des relations intéressantes parce qu'on est très libre, on peut proposer des scénarios. Et notre seul objectif, c'est quand ils nous disent ça fait mal et c'est compliqué, ben nous on accélère en se disant que c'est là où on veut absolument aller. Donc on est dans une relation assez intéressante, dans une position en tout cas assez intéressante, où on a la chance d'être enrichi par une Purple et une Blue Team. Peut-être Romain, si tu veux.
Avant de vous entendre, Romain, parce que je veux bien qu'on entende aussi Nadia, la Purple Team, comment vous avez justement interagi, quelles ont été les relations entre ces différents groupes de votre point de vue?
Alors moi, en fait, je pense que tous les scientifiques ne sont pas contactés de la même façon. Moi, on m'a demandé de réagir à un des deux scénarios et de donner en fait mon point de vue par rapport justement à ce qu'il pouvait évoquer en termes pas forcément de plausibilité, mais de ce que ça me renvoyait à moi en tant qu'expert sur tous les sujets énergie et climat. Par rapport à ces aspects-là en particulier. Donc c'est comme ça que je suis intervenue sur le scénario de la nuit post-nuit carbonée et que j'ai pu avoir un dialogue avec les auteurs pour dire quelles étaient mes réserves ou mes intérêts, on va dire.
En fait, la Purple intervient à deux étapes, au moment de la création des scénarios pour nous aider à les ancrer. Et après, une fois qu'on les a terminés, on les pose sur la table, on les donne au ministère. Et on a encore une fois la Purple qui revient et qui nous dit « Ouh là là, c'est catastrophique tout ça ». Ou pas. D'ailleurs, Nadia avait des réserves et des critiques sur le scénario. Donc tu nous feras part tout à l'heure.
Romain Lucaso.
Alors c'est très important, ces différents éléments d'interaction et c'est vraiment ça qui fait pour un auteur tout le charme de cet exercice. Dans le cadre de la constitution des scénarios, nous on passe notre temps en effet à demander d'avoir des petites interviews avec des experts de toutes sortes de sujets, parfois extrêmement étonnants, et on aime bien leur poser des questions un peu bizarroïdes. Vous voyez, c'est assez rare effectivement dans la vie d'un chercheur qu'on lui pose des questions tordues sur voilà, alors comment est-ce qu'on pourrait faire si on voulait fabriquer des arbres qui pourraient tuer des gens en très grande quantité. Bon, donc du coup ils nous regardent avec un air un peu certains raccrochent, ils nous disent bah ça je suis pas à l'aise pour y répondre, et c'est très bien. Et c'est sur cette base là que nous on va effectivement arriver à construire des récits qui se trouvent dans ce qui est de l'ordre du vraisemblable, ce qui est de l'ordre du plausible, ce qui est scientifiquement voilà, à la rigueur acceptable. On n'est pas, encore une fois, on ne fait pas venir des soucoupes volantes, mais qui en même temps voilà, va tirer un peu ou va tirer au maximum l'élastique de ce que voilà, la science permet d'envisager. Donc ça, c'est la phase d'élaboration. Donc on a ce dialogue constant avec des scientifiques qui est absolument passionnant. Moi, c'est une des parties les plus sympathiques du travail. Avec les militaires, c'est une autre sorte d'interaction ou d'itération. Et c'est une interaction passionnante parce qu'effectivement, petit à petit, au fur et à mesure de la formulation de ce qui va de l'idée originelle jusqu'au scénario, on va tester chacune des étapes avec eux. On va les faire réagir. Donc ces réactions, elles sont diverses. Dans certains cas, ils nous disent, c'est pas une vraie menace, c'est pas nouveau, ça nous intéresse pas. Donc ça, voilà, on ferme. Dans d'autres cas, ils vont nous dire, ça c'est un peu embêtant, ou si c'était formulé comme ça, ce serait embêtant. Et donc là, effectivement, nous on prend et on va développer dans ces directions-là. Le but étant de construire le scénario le plus embêtant possible, sous condition de réalisation. Moi, il y a un moment que j'aime bien dans les échanges sur les scénarios. Voilà, ça fait rire Nicolas parce qu'il m'a déjà vu à l'œuvre. C'est le moment où un groupe de militaires nous dit « Non mais là, le scénario, ça va trop loin, on utiliserait l'arme atomique et puis ça arrêterait le scénario. » Donc ça, c'est un moment délicieux. On dit « Ok, on va changer le scénario pour éviter d'utiliser l'arme atomique pour pouvoir continuer à jouer. » Donc on va rester un tout petit peu en dessous de menaces. Et donc, en tout cas, c'est pour dire, avec les scientifiques et avec les militaires, mais notamment avec les militaires, c'est vraiment une forme de ping-pong et de co-construction. Et c'est ça qui est passionnant, parce que, si vous voulez, moi, des scénarios de science-fiction, je peux en écrire plein, j'allais dire dans mon garage, mais voilà, devant mon ordinateur, ça n'a pas du tout le même résultat que quand vous êtes dans cette espèce de ping-pong permanent, avec des scientifiques, avec des militaires, qui, effectivement, vous passez d'une certaine manière des intuitions narratives, des intuitions scénaristiques à cette paille de fer du réalisme. Il en reste quand même des choses qui relèvent d'une forme de science-fiction.
Alors ce ping-pong et cette co-construction, je vous propose d'en faire la découverte. Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
16h21 sur France Culture, nous parlons de la Red Team Défense, en compagnie de Romain Lucaso, Nicolas Mainviel et de Nadia Maizy. Nous venons de présenter ce collectif qui travaille avec l'armée française pour des scénarios du futur 2030-2060. Ce qu'il faut dire et ce qu'on n'a pas encore dit jusqu'à présent, Nicolas Mainviel, c'est que certains scénarios sont classifiés et restent confidentiels.
Absolument, on propose, on parle de saison. Donc il y a un certain nombre d'auteurs qui travaillent sur un certain nombre de scénarios. Au début de la saison, on propose des idées, des cadres, je ne sais pas quel est le bon terme, mais des idées. On se dit, tiens, on aimerait bien parler de piraterie, on aimerait bien parler d'énergie, de biologique, etc. Les ministères des armées retournent nous voir en disant, ça fait mal, là on peut gratter. On travaille durant une saison qui dure entre juillet, août à juin, donc c'est entre 9 et 11 mois. Et puis à partir de là, on décide de ce qu'on publie. Alors quand je dis on, c'est pas nous. Donc le ministère des Armées décide de classifier ou non certains scénarios. Et là, l'ouvrage que vous avez juste à côté de vous, qui fait l'objet de notre échange, en présente deux, un sur l'énergie, un sur le biologique, qui sont évidemment caviardés, on va dire ça comme ça, pour pas forcément parler de géographie ou de certaines technologies qu'on préfère garder sous le coude.
Romain Lucaso, des scénarios classifiés et aussi des auteurs qui restent et qui ont préféré garder l'anonymat.
Il y a quelques auteurs qui ont gardé l'anonymat pour des raisons personnelles, parce que l'engagement auprès du ministère des Armées peut être perçu comme un peu compliqué, effectivement. Et puis une majorité d'auteurs qui sont publics.
Alors ces scénarios, en tout cas, qui sont publics et publiés, je vous propose de les découvrir avec une lecture d'un extrait de ces guerres qui nous attendent en 2030-2060, saison 2, scénario 1, une guerre écosystémique. L'expérimentation d'armes écosystémiques sur la gigantesque étendue allant de la Carélie à la mer Noire touche vraisemblablement les territoires européens encore sous domination mongole. On y trouve des forêts lépreuses, des champs empoisonnés et des nuées d'insectes aux comportements étranges. Ces dommages collatéraux, liés à l'expérimentation d'armes écosystémiques dans l'ancienne Ruchénie, sont assumés par la Horde, car ils sont en accord avec l'importance idéologique du plan de recomposition ethnique visant l'ouest du continent. Dans ce contexte, les écosystèmes deviennent dangereux en raison de l'accumulation d'interventions humaines non coordonnées qui changent de manière drastique de nombreux paramètres environnementaux. L'injection de bactéries modifiées, d'insectes mutants, de plantes proliférantes est capable de sécréter de multiples pathogènes, conduit à des effets de seuil au-delà desquels la transformation des écosystèmes prend un tour incontrôlable et oblige les populations à fuir. D'une guerre biologique menée par un adversaire doué de volonté, le défi se mue en une lutte implacable contre un ennemi invisible aux intentionnalités multiples. Bien que non humain, il demeure omniprésent. Ce sont des poches d'écosystèmes ravagées et imprévisibles. Voilà pour la mise en contexte. Romain Lucaso, est-ce que je peux vous demander de nous raconter la suite de cette histoire ?
Alors, c'est donc un scénario qui vise à explorer les implications de technologies dont on voit aujourd'hui l'émergence, voire plutôt le développement, et qui sont le couplage entre les avancées pas si récentes en fait en termes de manipulation du vivant et les formidables puissances en fait du traitement de la donnée et de l'informatique qu'on a aujourd'hui. Donc l'informatique et le traitement de la donnée ont prodigieusement accéléré ce qu'on pouvait faire en termes d'intervention sur le vivant, et donc on imagine effectivement une situation où les technologies permettant de changer le mode de fonctionnement d'un organisme se sont démocratisées, qu'un certain nombre de barrières dans les sociétés ou d'interdits à l'égard de ces manipulations de bactéries, puis de plantes, d'insectes, etc. Ces interdits-là ont sauté ou ont été relativisés, ou donc dans un conflit en Europe, plusieurs camps, donc c'est une Europe imaginaire, on cherche pas le réalisme géopolitique, là ce qui nous intéresse c'est vraiment le conflit lui-même, chacun des camps va utiliser la manipulation du vivant pour déstabiliser le camp d'en face. Et donc l'accumulation de couches de manipulation sur diverses dimensions des écosystèmes, sur là j'injecte des bactéries, tu injectes des plantes modifiées, etc., etc., va provoquer une espèce d'effet d'effet incontrôlé, d'effet boule de neige exactement, et qui va rendre certains écosystèmes complètement hors de contrôle et extrêmement dangereux pour l'humanité. Et donc va amener certaines forces en présence à intervenir, non pas contre un adversaire humain, mais intervenir pour sécuriser et renettoyer et remettre effectivement de l'ordre dans des zones d'écosystèmes redevenues impraticables pour l'homme, ce qui est extrêmement compliqué. Voilà, donc c'est un scénario assez horrifique qu'on a voulu nous écrire comme ça, qui montre aussi ou qui tangibilise ce que signifie potentiellement la guerre bactériologique ou la guerre biologique, plutôt biologique que bactériologique, au XXIe siècle, qui sera qu'on espère n'existera pas, mais si elle existe, elle sera assez vide à n'avoir. Et ça vise aussi à travailler quelque chose qui est un peu un impensé aujourd'hui, qui est au-delà d'adversaires qui sont des, comme on le dit dans le petit extrait que vous avez utilisé, au-delà d'adversaires dotés d'une intentionnalité, l'adversaire traditionnel au sens de la guerre, qu'est-ce qui se passe quand on est confronté effectivement à un adversaire sans intentionnalité, mais pour autant avec une capacité létale significative, qui sont ces poches de nature dégradées. Voilà, donc c'est ça le scénario.
Mais vous décrivez un écosystème devenu fou, Nicolas Mirbel.
En fait, si je reviens un tout petit peu en arrière, typiquement la thématique qu'on a proposée était de militariser le vivant. Et donc on a une première phase de créativité un peu échevelée, où l'évidence c'était de manipuler l'homme, transformer l'homme en soldat, etc., l'augmenter. On a vite mis ça de côté, en se disant que finalement c'était déjà assez récurrent dans la SF, même si Romain est l'heureux créateur de l'homme fougou, qui n'est pas ressorti dans le scénario. Et après, on arrive au fil de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'intentionnalité dans le fait de dire finalement mon ennemi est l'écosystème en tant que tel. On ne sait pas réellement où on va, on construit l'histoire en marchant. Et c'est juste ces deux derniers mois où vraiment on l'a fait atterrir. Et donc là, il y a cette intentionnalité d'un écosystème qui est extrêmement destructeur et violent, mais qui n'est pas une intentionnalité humaine. Je ne peux pas juste dire je vais négocier. Je ne peux pas négocier avec une forêt. Et il y avait un deuxième élément aussi, peut-être précisé, qui était la volonté de... Les militaires sont très bons et sont très dépendants du spectre électromagnétique. J'envoie des informations, j'utilise des satellites, des caméras. Et là, en touchant biologique, on avait une nouvelle chose. Donc peut-être tu peux en dire deux mots sur le mycélium, parce que c'est aussi quelque chose qui était... On trouvait ça plutôt chouette. Après, ça, ils ont commencé à vite trouver des réponses, mais dont on parlera pas, mais...
Nicolas a un petit crush sur le mycélium.
J'aime beaucoup le mycélium, je trouve.
C'est un élément du scénario, mais qui était un élément intéressant, qui consistait à imaginer comment on pouvait utiliser des du matériau biologique pour mettre en œuvre soit de la détection, soit de la transmission d'informations. Et donc ça nous a amené à toute une réflexion qui est une réflexion intéressante et qui chatouillait nos interlocuteurs militaires pour se dire, est-ce qu'il y a des moyens, par exemple, d'utiliser des plantes pour de la détection. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas d'utiliser des plantes, parce que ça, c'est un peu gadget, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des alternatives au spectre électromagnétique? Et ça, ça ouvre, voilà, des pistes de réflexion qui sont assez frappantes, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de la vie moderne, et évidemment l'ensemble du fonctionnement des armées, dépend étroitement de l'utilisation du spectre électromagnétique.
Mais c'est que les arbres deviennent un décapteur militaire, ça a chatouillé vos intervenants.
Ouais, ça a chatouillé nos intervenants.
Le transparence du champ de bataille, vous pouvez plus rentrer dans une forêt sans être signifié. Donc ça posait de vraies questions.
Nadia Maizy, en votre regard avec votre expertise sur ce premier scénario.
Alors, moi justement, je n'ai pas vraiment d'expertise dans le domaine auquel fait référence le scénario, mais disons que ça fait écho. Alors, il m'a mis extrêmement mal à l'aise ce scénario, et quelque part, c'est vraiment l'orthogonal de tout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, puisque par rapport à mon expertise, mon sujet, c'est vraiment la question des changements climatiques, des impacts sur la biodiversité et le fait qu'il faut plutôt se retrouver en harmonie avec la nature. Et là, on voit que cet imaginaire a emmené dans une réflexion où les plantes deviennent des sujets d'agression et où il faudrait se mettre à rentrer dans une manipulation. Alors pour moi, c'est vraiment l'aurore suprême. Et en plus, il y a une analogie que j'ai trouvée intéressante qui nous renvoie à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la nature devient un ennemi pour nous. Mais pas parce qu'elle serait outillée, simplement parce que l'activité humaine est en train d'engendrer ces méga-feux, ces événements extrêmes, tout un tas de choses qui sont en train de nous ravager d'une autre façon que celle imaginée dans le scénario en question.
Nicolas Mainviel, cette question de la manipulation écosystémique de l'environnement, pour l'armée, c'est un débat avec des enjeux éthiques importants.
Alors, je vais rebondir sur Nadia, parce que je pense qu'effectivement, c'est un scénario d'horreur, et qu'on a vraiment conçu... Non, t'as pas l'air... Si, je pense que c'est un des scénarios qui grattait le plus, qui était dérangeant, notamment parce qu'on touche à l'humain. Il y a une séquence, si vous regardez les vidéos en ligne, où on parle de conséquences virales assez extrêmes. Et là, ce qui était aussi intéressant, c'est que non content d'avoir un ennemi écosystémique qui est totalement manipulé, avec des choses dont on parle malheureusement dans le monde militaire, hein, qui est si je rase vos champs de blé, comment est-ce que vous allez continuer à nourrir votre population, comment est-ce qu'on peut qu'est-ce qui devient un vrai sujet de défense ou d'agression. Il y a énormément de sujets, mais il y avait aussi cette dimension, dès que je touche à l'humain avec ce type d'arme, ça a des conséquences sur l'apparence même, qui sont extrêmes. Et donc autant les militaires sont proches de la mort, autant là on venait dans une espèce de gueule cassée biologique de la Première Guerre mondiale, et on les remettait face à quelque chose qui était un peu inattendu, qui était très brutal. Et honnêtement, c'est un scénario qui a fait un effet assez bœuf, je pense, de ce point de vue-là. Ça a questionné la manière dont on l'apprendrait, en tout cas.
Romain Lucaso.
C'est vraiment une dimension importante des scénarios, ça. C'est-à-dire, si on fait des scénarios et pas des rapports, voilà, c'est vraiment pour ça, pour produire un effet. Et cet effet, il ne peut advenir que si on est en train de décrire des choses dérangeantes. Ouais, donc, si nos scénarios sont pas dérangeants, c'est qu'on a loupé notre travail. Et donc, ça peut pas être des imaginaires positifs. On n'est pas payé dans ce cadre-là pour générer des imaginaires positifs. On est missionné pour produire effectivement des choses pour lesquelles il faut aller chercher des auteurs de science-fiction pour commencer à les regarder. Voyez. Et donc, ça implique effectivement d'aller en orthogonale par rapport aux tendances un peu profondes qu'on peut avoir sur des questions éthiques, etc. Et c'est bien le rôle de l'équipe qui joue les méchants de faire ça. C'est-à-dire que aucun pays occidental, je pense, n'envisage la guerre biologique de façon proactive. Pas trop. Mais par contre, c'est intéressant de se dire à quoi ressemble un ennemi qui ferait ce genre de choses.
En fait, quand on fait ça, la raison pour laquelle, en tout cas moi, titre personnel, je suis à l'aise avec le fait de le faire, c'est qu'on jette pas des imaginaires en l'air de manière publique en disant voilà, j'ai raconté des choses absolument abominables. On est face à une organisation qui est une immense pratique de l'apprentissage. Ils appellent ça les lessons learned. Sont des gens, quand ils sont pas prêts, ils meurent. Et donc c'est quand même un bon driver, un bon incentive. Et donc ce qu'on voit pas, c'est ce qui se passe après. Donc là, on a publié l'ouvrage. La réalité, c'est qu'après, il y a un travail immense qui est fait par le ministère des Armées pour décortiquer ces scénarios, au travers de ce qui est appelé, entre autres, un dossier de menace, mettre à plat les capacités, la doctrine, et se dire qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Donc tout à l'heure, Romain parlait de résilience, je pense qu'il y a même une forme d'agilité presque organisationnelle pour sortir d'un plan capacitaire sur 30 ans pour sortir le prochain Rafale. Là, sur certains de ces scénarios, des gens sont mis autour de la table, on dit « Ok, là, il y a une urgence, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou pas ?» Comment on y répond. Et en tout cas, moi, je suis à l'aise à raconter des choses qui sont aussi qui sont aussi dérangeantes, parce que je sais qu'en face, il y a une véritable volonté d'adaptation, et que je sais aussi, alors nous, la White Team, elle a un travail un peu bizarre chez nous, parce qu'on joue les méchants, donc on peut difficilement être limité d'un point de vue éthique, mais par contre, si vous rencontrez les gens qui s'occupent de l'éthique au sein des forces françaises, ce sont des gens admirables. Je veux dire, on a face à nous des officiers qui sont juste incroyables, qui ont une vraie mesure de leur force et de leur action. Et donc, je suis assez, moi, en tout cas, titre personnel, je sais pas comment tu le vis, mais je suis très serein sur l'usage qui est fait de nos scénarios.
Nadia Maizy, vous souhaitiez réagir?
Oui, par rapport au degré d'horreur et à l'effet en fait induit par ce type de scénario, je pense qu'il y a vraiment quand même une discussion à avoir parce que ça peut figer en fait en face et ça peut mettre dans une situation où on va rester pétrifié et niveau d'angoisse, il faut pas qu'il soit à mon avis, trop extrême. Je fais un parallèle avec ce qu'on fait dans le cadre du GIEC. On travaille aussi sur des scénarios. Ça pourrait être comparable parce que ce sont des illustrative pathways, c'est-à-dire des trajectoires illustratives. Et c'est vrai que c'est très compliqué, en fait, de faire passer des messages extrêmement catastrophistes parce que ça peut avoir un impact finalement qui va être contre-productif dans le sens où ça va complètement décourager et ça va générer des réactions qui vont plutôt dans le sens inverse de ce qu'on attendrait. Donc moi je dois dire que quand j'ai vu ce scénario et en plus il y avait des images très frappantes lors de la présentation, je ne vois même pas le niveau de réponse qui peut être apporté parce que ça décrit un monde qui n'a plus aucun sens, en fait. Donc c'est très compliqué, voire il n'a plus qu'un sens pour les militaires entre eux, quoi. Mais il n'y a plus de place pour rien d'autre. Et c'est vrai que j'entends bien hein, que derrière ça suscite de l'action en termes de réponses potentielles. Mais encore une fois, dans ces travaux de prospective et de scénarisation, c'est peut-être des limites très délicates à atteindre.
Et face à la crise environnementale future, des réponses tout autres vous en apportez dans le scénario 2. Restez avec nous.
Thank you.
Jenny Wilson, The Future, à 16h39 sur France Culture, car nous parlons de la science-fiction qui s'en va en guerre avec la Red Team Défense. Nous en parlons avec nos trois invités, Nicolas Mainviel, membre de la Black Team et professeur à l'Audencia Business School, avec Nadia Maizi, membre de la Purple Team, professeur à Mines Paris PSL et co-autrice du 6e rapport du GIEC, et Romain Lucaso, auteur et membre de la Red Team Défense. Vous avez publié Ces guerres qui nous attendent aux éditions L'Équateur. Nous avons décortiqué votre premier scénario. Dans le deuxième scénario, il est aussi question des enjeux sécuritaires liés au changement climatique qui sont majeurs, Nicolas Mainviel.
Absolument. Donc là, on a eu un... À la différence du premier, on a pris des tendances technologiques, on a un peu extrapolé. On en a imaginé les conséquences néfastes, mais il y a toujours une dualité dans les innovations. Et il y a évidemment beaucoup de choses positives à tirer des mêmes technologies qui arrivent à ce scénario. Là, on a un peu triché volontairement. Donc on a imaginé une nuit carbonique, donc il se passe quelque chose qui a un impact écologique extrême. Et là, tout le monde se met autour de la table et se dit finalement, il faut vraiment qu'on apprenne à gérer notre relation à l'énergie de manière extrêmement différente. Donc on a un peu triché dans le scénario pour arriver à traiter de l'énergie qui est un sujet qui est incontournable.
Cette nuit carbonique, je vous en propose justement une lecture. En 2035, la situation écologique mondiale est aussi critique que prévu. La hausse des températures a entraîné une désertification des zones continentales et une instabilité des zones côtières. Migration massive, détresse alimentaire, augmentation des stress hydriques et thermiques, hausse de la mortalité, baisse de l'espérance de vie, émergence de nouvelles maladies, développement du choléra, les effets sont désastreux. Les zones d'habitat sauvage sont réduites de moitié. Les catastrophes naturelles se succèdent et plus de la moitié de la population se trouve dans une situation vulnérable. Sur le plan énergétique, les ressources en énergie fossile sont épuisées. Leur extraction est de plus en plus coûteuse et polluante. Le monde bascule dans une situation de pénurie énergétique mêlée à l'anxiété climatique. Au cœur de l'été 2035, marqué par des températures records, un incendie se déclare dans les puits de pétrole de Péruny. Cet incendie dégénère en méga-feu. Des centaines de milliers d'hectares brûlent pendant plus de 2 mois. L'incendie, très médiatisé, inaugure une série de méga-feux jamais vus auparavant à travers le globe. Un seuil a été franchi dans le réchauffement climatique. Des pyrocumulonimbus se forment. La cendre et la suie recouvrent la planète pendant tout l'automne 2036. Déjà fragile, la sécurité alimentaire est menacée. La nuit carbonique provoque une prise de conscience. La décarbonation de l'atmosphère n'est plus une option, mais une question de survie mondiale. Voilà, ce scénario, c'est un scénario énergétique incontournable. C'est aussi une expérience de pensée, Romain Lucaso. Et si nous n'avions plus de pétrole, quelles seraient les conséquences ?
C'est une expérience de pensée complètement et diamétralement opposée dans sa méthode à la précédent scénario. Le précédent scénario, la tendance de fond qu'on explore, elle est technologique. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la techno ? Là, et ça, moi je trouve que ça illustre bien une certaine tradition de la science-fiction française aussi, on explore des dynamiques et des phénomènes de nature sociologique, voire anthropologique. Et donc on se dit, voilà, à quoi ressemble un monde où on a changé un paramètre fondamental, qui est notre rapport à l'énergie. Et où on bascule effectivement dans quelque chose dont on pressent les contours aujourd'hui, mais par rapport auquel il y a beaucoup de profondeur à aller chercher en termes d'action, qui est on rentre dans un monde où la question de la production ou des émissions que chaque action qu'on va mettre en œuvre va produire devient une question centrale et une question politique majeure. Donc c'est un univers où il y a un ministère régalien qui régule tous les autres ministères et toutes les autres actions publiques, qui est le ministère de l'Environnement. Et donc là, vous rentrez dans des modèles de société complètement différents des nôtres, d'une autre, où en fin de compte, crise climatique ou pas crise climatique, aujourd'hui, la question de la consommation d'énergie, on s'en soucie que quand il n'y en a plus d'énergie. Non mais c'est ça. Donc on raconte un monde et on raconte une opération militaire dans ce monde. C'est toujours comme ça, hein, on construit d'abord un monde et puis on raconte une histoire dedans, où chaque quantité d'énergie consommée doit être justifiée et rationnée, et où vous êtes sur des modèles d'intervention militaire qui prennent en compte de manière fondamentale ce rationnement d'énergie et ce rationnement dans les émissions de CO2 liées effectivement à cette consommation d'énergie. Donc on raconte ensuite dans le scénario une opération militaire qui est un prétexte en réalité, hein, voilà, et qui est un prétexte qui vise à confronter deux modèles d'armée, un modèle d'armée qui va la plupart du temps être dans une consommation d'énergie basse et qui ne monte en intensité dans sa consommation énergétique que s'il a d'extrêmement bonnes raisons et beaucoup d'autorisations pour le faire, et puis un modèle d'armée plus traditionnel qui va consommer, donc ça c'est les méchants, qui va consommer de l'énergie en veux-tu en voilà et puis émettre du CO2 en veux-tu en voilà, et donc de se dire en gros dans cette asymétrie entre une armée sobre et une armée pas sobre, voilà, comment est-ce que vous faites effectivement pour survivre? Quelles implications ça peut avoir en termes de technologie? Alors, bon, je vais vous en donner une. On imagine effectivement un monde où chacun est une batterie pour les autres, et où donc les gens passent leur temps à se recharger les uns les autres, voilà, dans un mode un peu comme du peer-to-peer, quoi, voilà. Aujourd'hui, on est dans un modèle d'énergie très centralisé. Hein, vous allez à la citerne, vous allez vous brancher au réseau. Dans ce monde-là, dans un monde de sobriété énergétique maximale, voilà, on passe notre temps à se recharger partiellement sur le voisin, et donc ça change aussi le modèle d'armée. Donc c'est vraiment ça que ce scénario raconte, et c'est vraiment de mon point de vue un scénario intéressant, parce que c'est pas fondamentalement un scénario technologique. Vous voyez, la science-fiction, c'est pas que tirer des fils de technologies futures ou de la science. Le mot science dans science-fiction est parfois mal utilisé.
En tout cas, ce scénario, c'est une révision totale des gestions de l'énergie. Nadia Maizé, à ce sujet, est-ce qu'il y a un point du scénario qui vous a particulièrement interpellé compte tenu de votre domaine d'expertise sur ce scénario-là?
Alors, ce scénario, il m'a finalement autant glacé que le précédent, mais pour des raisons très différentes. C'est parce que j'ai pas compris dans le préambule ce qui nous différenciait aujourd'hui de ce qui était décrit. Et notamment, j'étais très très peinée de ce que vous avez rappelé sur le fait que après cette catastrophe, cette nuit carbonique, il y a une prise de conscience qui dirait que oui, il faudrait quand même décarboner l'atmosphère, hein, c'est plus une option maintenant. Et c'est moi, c'est cette, disons que cette entrée en matière m'a complètement abasourdie, parce que cela traduit quand même ce que nous on constate en tant que scientifiques du GIEC, c'est-à-dire que nous sommes totalement inaudibles et que la situation mondiale, personne ne réalise que ben il y a plus de la moitié de la population du globe qui est dans des zones déjà extrêmement vulnérables. Que nous avons des méga-feux, que nous avons des événements extrêmes, qu'il y a des stress hydriques. Enfin, tout ça est bien, bien plus proche de nous que ce que le scénario semble nous dire. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis ensuite, il y a une hypothèse de travail qui est de passer du tout hydrocarbure au tout électrique. Et là aussi, ça m'a perturbée parce que c'est ce qui est prôné aujourd'hui, mais c'est une option qui est très questionnable, puisque l'électricité elle-même, qui n'est qu'un vecteur d'ailleurs, doit être basée sur des ressources, et qu'en plus, à la limite physique qui est donc prise comme hypothèse et qui dit qu'on n'aurait plus de ressources fossiles, va maintenant se poser en écho la limite physique de tous les matériaux critiques dont on a besoin pour aller vers des usages tout électriques. Donc en fait, il y a des sujets qui sont utilisés, qui effectivement par rapport à l'autre scénario sont bien proches de ce que nous discutons aujourd'hui, notamment en termes de choix technologiques. Et malgré ce que vous venez de dire, moi je trouve qu'il est très technocentré, c'est-à-dire que encore une fois, eh bien on va avoir tout un dispositif technologique qui maintenant est proche de chaque soldat, avec cette hypothèse de dispersion de l'énergie qui s'oppose à la centralisation de l'énergie qu'on connaît aujourd'hui et qui fait que on a des grosses quantités d'énergie produites avec des interconnexions pour nous alimenter. Donc voilà, donc c'est un scénario sur lequel j'ai pas réussi moi à me projeter dans le futur. Je me suis dit en fait on parle d'aujourd'hui et on s'en rend même pas compte.
C'est sûr que le parallèle avec notre époque est assez frontal. Nicolas Mainville, quelle a été la réception de l'armée? Parce que on parle de ces scénarios comme des angles morts. Est-ce que ça signifie que cette question de la rupture énergétique, que l'énergie, en particulier les énergies fossiles, ce sont des impensés de l'armée française?
Alors non, je pense pas, parce qu'ils travaillent dessus, ils en sont bien conscients. Et je vais rebondir après sur la dernière remarque de Nadia, que je trouve vraiment vraiment passionnante. Ils en sont conscients. Pour autant, je pense qu'il y a quand même peut-être une perception au sein des armées qu'en cas de crise majeure, on ne se posera pas la question de savoir si on brûle du carbone ou pas, si on doit défendre Paris. J'essaie de le résumer de manière un peu brutale, mais en cas d'atteinte aux intérêts majeurs de la nation, je pense pas que la première question que tout le monde se posera sera de dire il faut faire attention à pas déplacer le Leclerc parce qu'on va polluer. Et donc là, notre sujet, c'était de mettre ça à mal. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment ce twist narratif qui était de dire tout le monde se met autour de la table et les forces occidentales, ou en tout cas les Françaises qu'on décrit là, s'interdisent littéralement d'utiliser de l'essence. Ce qui nous amène à l'électrification, on en parlait de Nania qui était aussi un parti pris volontaire. On voulait avoir ce choc-là, même si c'est pas un choc en tant que tel, mais en tout cas, imagine un monde dans lequel de facto c'était impossible. C'est un exercice de pensée, encore une fois. Par contre, là où ce qui est intéressant, parce que c'est un enjeu, je pense, dans la lecture de tous les scénarios publics de la Red Team. Quand on regarde les commentaires en ligne, on nous dit oui, mais c'est déjà actuel, ou oui, mais c'est technologique, etc. En fait, la réalité, c'est que oui, c'est technologique, il y a ce partage d'énergie dont parle Romain, etc. Mais la réalité, c'est que ça change tout dans les modes opératifs. Quand vous baladez dans la jungle, que vous avez une charge très très limitée d'électricité, vous allez chercher des oasis énergétiques, littéralement. Et il y a une bonne partie des scénarios qui veulent dire que je peux plus progresser en file indienne, soit je dois détacher des gens du génie, soit je m'arrête, et ça change le rythme complet des opérations. Et donc, paradoxalement, ce simple twist narratif-là a des vraies conséquences dans les modes opératoires, qui sont pas une évidence. Je veux dire, un soldat qui se bat avec son éolienne, et qui va attendre d'attaquer pendant 2 jours parce qu'il faut qu'il se recharge, ou qui va chercher un cours d'eau et suivre des cours d'eau pour avoir sa petite centrale hydro. C'est quelque chose qui est pensé ou dans le cône de perspective actuellement. Je te vois réagir, Romain, mais
Romain Licazo.
L'infrastructure globale de nos sociétés, et donc l'infrastructure globale de nos armées, aujourd'hui est complètement dépendante des hydrocarbures. Enfin, c'est une réalité. Et en fait, un armement, enfin, quoi qu'on en pense, un armement, ça dure très très longtemps. Enfin, je veux dire, les avions qu'on fabrique aujourd'hui, ils seront
2100.
Ils seront encore en usage probablement en 2080, voire peut-être 2100. Donc, si on décide effectivement d'avoir une motorisation au kérosène aujourd'hui, ce qui est la seule option pertinente actuellement, en fait, en 2100, il y aura toujours des avions qui voleront au kérosène. Et donc ça, c'est différentiel de rythme entre la décision politique, l'évolution de la société, parce qu'il s'agit d'évolution de la société, et le rythme de la technologie, de la planification des armements. C'est fondamentalement ce qu'on travaille souvent dans ces scénarios. Parce qu'effectivement, on voit des effets de décalage ou des effets de rupture. On a tous effectivement, c'est rentré dans la conscience collective qu'il fallait changer de façon drastique la manière dont on consommait de l'énergie et la manière dont on produisait du CO2. Le niveau d'élasticité de tout ça dans le monde réel, il est complexe. Et donc interroger l'armée sur ça devient intéressant.
France Culture, la science CQFD. Natacha Trio.
16h53 sur France Culture, nous parlons de la Red Team, ou quand l'armée fait appel à des auteurs de science-fiction. On en parle avec nos 3 invités du jour, Romain Lucazo, Nicolas Mainville et Nadia Maizy. Nous avons parlé de vos 2 scénarios de cette saison 2. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Je voudrais savoir un peu plus précisément comment concrètement ça s'écrit, justement, des scénarios comme ça. Romain Lucazo, comment, c'est des scénarios écrits à plusieurs mains, ça, en termes de travail littéraire, c'est un petit défi quand même.
Alors, c'est pas vraiment un travail littéraire. C'est assez différent d'un travail littéraire. Ça ressemble beaucoup plus à ce que vous faites quand vous écrivez un scénario de série, par exemple. Voilà, c'est un scénario. Et donc, vous partez d'une idée, vous confrontez l'idée à des experts, à des militaires. Ensuite, une fois que vous vous dites, l'idée, la direction est bonne, vous écrivez une sorte de pitch, et puis vous confrontez ce pitch au même, puis vous continuez comme ça de manière itérative jusqu'à avoir un scénario. Et c'est de l'écriture collective. Voilà, donc c'est un exercice très différent de moi en tant qu'auteur, en tout cas de ma pratique d'auteur, qui est une pratique solitaire, où mon objectif premier, c'est de faire passer un moment intéressant à mon lecteur quand il sera assis sur une plage. C'est pas focalisé dans la même direction. Donc on est effectivement sur un exercice qui est beaucoup plus un exercice de rédaction de scénario collectif et itératif. Je suis désolé de l'expression, mais c'est itératif, que dans de la production littéraire.
Ouais, sur ces textes écrits à plusieurs mains, Nicolas Mainvielle.
En fait, les auteurs, on les a pas embauchés pour leur qualité littéraire et rédactionnelle. Et je pense que par moment, mais en toute sincérité, ça se traduit dans les ouvrages, hein, ça peut être sec par moment. On les a embauchés pour leur capacité à imaginer des mondes. Et je pense qu'on peut imaginer des bons mondes et être un très mauvais auteur. Dans la plume, on peut je te regardais pas. On peut être aussi l'inverse, mais ce qui nous intéresse là, c'est la capacité à imaginer des mondes de manière créative et de jouer avec les dimensions de ces mondes-là.
Alors pour justement cette capacité à imaginer des mondes, vous nous avez confié avant l'émission, Nicolas Mainvielle, que pour préparer la Red Team à l'écriture des scénarios, les militaires vous ont même fait vivre leur quotidien.
Ok, ça c'est un élément, je pense, absolument clé. Quand on regarde l'institution militaire, on la regarde avec beaucoup d'a priori, ou beaucoup de mauvaises idées, on sait pas trop ce qui s'y passe concrètement. Et là, je pense que pour nous, côté de la Black Team, il était absolument incontournable, et je parle aussi pour moi, hein, pour tout le monde, qu'on aille s'immerger, qu'on comprenne ce que c'est que le vécu. Et là, j'ai tiré mon chapeau à nos interlocuteurs qui font des efforts incroyables et qui nous ouvrent avec sincérité les portes d'à peu près tout. C'est-à-dire que très concrètement, quand on a besoin de comprendre un matériel ou quelque chose, on passe un coup de fil et dans les 2-3 semaines, on voit le matériel, on nous explique comment ça marche, etc. Donc, Romain, en l'occurrence, n'était pas là ce jour-là, mais tous les auteurs ont utilisé des armes. Tous les auteurs, Romain a visité et s'est immergé dans beaucoup de matériel. Donc, on a vraiment une présentation assez exhaustive. Et en fonction des thématiques, on peut aller encore plus en profondeur du matériel, des usages, de ce que vivent les auteurs. C'est pas imaginer, essayez de vous imaginer des auteurs de science-fiction avec des jumelles de vision nocturne dans une forêt à 2h du matin, et vous aurez une idée de ce qu'on a réellement vécu et ce qu'on leur fait vivre.
Et pour conclure, hein, les conséquences réelles de ce travail, de ces conceptions de scénarios sur l'armée.
Il y en a peut-être deux dont on peut parler, parce que les autres on pourra pas, mais il y en a une qui a permis, alors c'est peut-être un peu ambitieux dit comme ça, mais en tout cas qui a eu un impact sur un projet qui s'appelle Myriade, qui est un projet de guerre dans le domaine du combat cognitif. La guerre cognitive, absolument. Donc ça, c'est un scénario de l'année dernière où on parlait de bulles de réalité, notamment. Encore une fois, qui a contribué, hein, on n'en est pas à l'origine. Et dans le scénario Hyper Forteresse aussi de l'année dernière, ça a eu des conséquences sur le design du prochain porte-avions. Parce qu'il y a une séquence où vous voyez des drones qui volent un peu partout d'un porte-avions et ça a eu quelques conséquences sur le design du PNG. Et je m'arrêterai là.
Romain Lucaso.
Je pense que il y a une vraie vertu, c'est vrai de l'institution militaire, c'est vrai d'autres institutions, à être confronté à des scénarios de néophytes éclairés. Vous voyez, on apporte aussi un regard complètement décalé, qui au départ est complètement déconnant, donc ils nous font visiter des trucs, donc on est un peu moins déconnant ensuite. Mais on garde effectivement cette posture de l'extérieur. Et donc ça, bah ça permet effectivement d'envisager un certain nombre de phénomènes de l'art de la guerre de manière alternative par rapport à la façon dont eux le planifieraient.
En tout cas, merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure et de nous avoir accompagnés dans le futur, en 2030-2060. Ces guerres qui nous attendent, volume 2, je rappelle, vient de paraître aux éditions Équateur. Merci à vous trois et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Mariam Ibrahim, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Préma Agnolo, Céline Lozen, Nafi Terrasse. À la réalisation, Olivier Bétard. Merci Grégory Wallon à la technique aujourd'hui. Cette émission, ce podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.
Collection Mécanique du vivant, saison 2, le requin.
L'amoureux de la nature, Marc Mortelmans, vous raconte la place fondamentale des requins dans notre écosystème, de la surpêche qui menace leur fonction vitale pour les océans, au mystère de leur reproduction.
Comment et pourquoi des animaux si résilients, si costauds, sont si désavantagés aujourd'hui ?
Mécanique du vivant, saison 2, Le requin. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charlotte Roux sur franceculture.fr et l'appli Radio France, avec le Zooparc de Beauval et l'association Beauval Nature.